Alors, si vous le voulez bien, je vous interromps et on va prendre quelques instants pour. Ça marche pas? Vous m'entendez pas? Alors, si vous voulez bien, on va prendre quelques instants pour lire le passage. Donc, c'est dans Philippiens, chapitre 3, des versets 1 à 11. Donc, vous pouvez les trouver à la page 772. Donc, page 772, Philippiens 3, versets 1 à 11. C'est bon? Allons-y. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui n'étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, et en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts.
Je vous propose de commencer par remettre ce moment à Dieu, si vous voulez bien. Prions. Père Céleste, merci pour ce passage de ta parole qui nous a été lu, de nous être remplis de discernement pour bien comprendre ce passage ensemble. Au nom de ton Fils Jésus, Amen. Qu'est-ce qui pourrait vous déstabiliser dans la vie chrétienne? Des coups durs, des paroles suaves, qu'est-ce qui pourrait vous amener à lâcher prise? Voilà comment un corbeau célèbre en vient à lâcher prise. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Voilà une joie bien malvenue, voilà une fierté bien mal placée. Car vous savez comment cette fable de la fontaine finit. Au chapitre 3 de l'épître de Paul aux Philippiens, il est question d'un danger. Verset 2, faites attention, faites attention, faites attention. Verset 19, en parlant de chrétiens qui ont lâché prise, leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Face à cela, Paul nous dit d'emblée quelle est l'attitude sécuritaire. Verset 1. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Paul a effectivement déjà invité les Philippiens à plusieurs reprises dans cette lettre à la joie. Mais remarquez ici l'objet de la joie dont Paul parle. Joie dans le Seigneur. Paul a aussi déjà invité les Philippiens à la fierté en Jésus-Christ. Relisons ensemble les versets 25 et 26 du chapitre 1. Chapitre 1, versets 25 et 26. Je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Paul voulait bien rester ici-bas afin que les Philippiens éprouvent de la joie et de la fierté en Christ. Au chapitre 1, comme au chapitre 3, on voit que ces idées de joie dans le Seigneur et de fierté en Jésus-Christ sont connectées. Ces thèmes sont tellement entremêlés qu'ils sont sans doute interchangeables pour nos besoins, joie et fierté. Plaçons notre fierté dans le Seigneur. Placer notre fierté dans le Seigneur, c'est s'épargner une trajectoire de perdition. C'est ça le danger, et on y reviendra le mois prochain. Mais pour aujourd'hui, il importe vraiment que notre fierté soit dans le Seigneur, et pas ailleurs. Car si notre fierté n'est pas dans le Seigneur, c'est qu'elle est ailleurs. Voyez le verset 3. Les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. On ne peut pas avoir sa fierté ici et là. C'est l'un ou l'autre. Et du coup, se réjouir dans autre chose que Christ, c'est s'exposer encore au danger. Quant à nous, plaçons notre fierté dans le Seigneur. Notre passage nous donne de comprendre cet impératif de deux manières complémentaires. Premièrement, comptons la chair comme sans valeur aucune. Versets 2 à 8, comptons la chair comme sans valeur aucune. Au verset 2, Paul s'attaque à quelques-uns d'origine juive qui placent leur fierté dans la chair. Notre traduction Second 21 a en effet traduit le mot original « chair » par « condition ». Par exemple, à la fin du verset 3, « les vrais circoncis, c'est nous qui ne plaçons pas notre confiance dans la chair ». Le Nouveau Testament emploie très souvent ce terme de « chair ». Qu'est-ce que c'est ? La chair, c'est tout ce qui nous rattache au monde. La chair empiète sur toute notre existence. On va avoir l'occasion d'illustrer ce qu'est la chair dans les prochaines minutes. Paul n'accuse pas les mauvais ouvriers du verset 2 par jalousie, comme si lui n'avait aucun sujet de fierté dans la chair à son actif. Non, il aurait toutes les raisons du monde de s'enorgueillir. Au verset 5 et 6, Paul énonce ses origines et ses accomplissements. Voyez son bel avancement dans la religion. Ça serait une erreur de penser qu'on a fait le tour des sujets de fierté que Paul énumère dans ces versets-là. D'abord parce que ces sujets de fierté-là étaient effectivement des qualités à leur manière, comme le dit le verset 7, des qualités. Et ces versets sont donc impressionnants de sincérité, d'autant plus que c'est aux Philippiens que Paul s'adresse, pas aux faux docteurs directement. Il n'y a pas de trace d'hypocrisie ici, ces sujets étaient bien des qualités. Et ensuite, ça serait une erreur de penser qu'on a fait le tour de ces sujets, parce qu'il nous est très facile de tomber dans le panneau. J'ai passé 10 ans dans une paroisse réformée du centre de Paris, aux côtés de ce qu'on appelle la haute société protestante. Notre pasteur était un orateur. Et combien de fois dans les conversations avec des paroissiens, j'ai entendu dire de lui qu'il avait fait Sciences Po avant de faire ses études de théologie. Un beau sujet de fierté pour la paroisse. Ça ne vaut rien, mais sur le coup, on se sent moins ridicule. Ou prenez nos milieux évangéliques français, qui voudraient bien se normaliser et s'embourgeoiser, si c'était possible. On a des raisons d'être fiers d'être protestants, tout de même, protestants en fait. Et quant à nous, la fierté qui est la nôtre d'appartenir, pour le moment, à une paroisse anglicane respectable et importante, avec un bâtiment qui a de la gueule, est-ce que ça indique pas que la chair a un peu plus de valeur qu'on ne veut se l'avouer. Or, les mêmes qualités qui nous voudraient d'être mieux reçues en société sont ces qualités qu'il nous faut compter comme sans valeur. Et si la piété de Paul n'est pas au goût du jour, pensez à ces sujets-là. Carte de visite, niveau de rémunération, diplôme, reconnaissance sociale, réseau social, niveau de vie. Comptons la chair comme sans valeur aucune. Cet avertissement, on en a bien besoin, nous autres qui avons choisi de vivre sur Londres. Mais pourquoi Paul voudrait-il avertir les Philippiens ? Qu'est-ce qui pourrait jamais les disposer, eux, à se tourner vers la chair ? Eh bien, rappelez-vous le deuxième chapitre de l'Épître, l'état d'esprit en question que Paul a modélisé et qui est donné aux chrétiens. Christ est ma vie. Si Christ est ma vie, ça veut dire qu'on s'engage entièrement dans la vie chrétienne. On fera face à une opposition, comme les Philippiens. Et tout cela parce qu'on suit Jésus-Christ de façon radicale. Au début, ça sera comme au début d'un conflit, la fleur au fusil. On y va gaiement. Puis on prendra des coups. On se retrouvera relativement isolé. On ne verra pas forcément l'issue du conflit. À différentes époques, le champ de bataille est différent. Dans ces versets, Paul avertit les Philippiens contre le courant judaïsant, qui exigeait des chrétiens le respect forcé de la loi de Moïse, pour mieux conformer le christianisme au judaïsme de l'époque. Mais pourquoi Paul estimait-il que ce courant-là aurait pu trouver un terrain d'accroche à Philippe ? Car après tout, c'est à Philippe que se trouvent les chrétiens les plus matures. Eh bien, il est possible d'avoir confiance en Christ pour son salut, comme c'est certainement le cas des Philippiens, mais d'avoir un profil bas, par ailleurs, dans la vie chrétienne. Comme un chien qui n'aurait pas fière allure. La rapidité avec laquelle on change de sujet quand une discussion sur l'Évangile avec des collègues tourne mal, est-ce que ça n'indique pas que la chair a plus de prise qu'on ne veut se l'avouer ? Dans l'opposition, la fierté en Jésus-Christ, ça devient rapidement le cadet de nos soucis. On essaie plutôt de ne pas aggraver sa situation. Vous savez comme moi quels sujets peuvent nous valoir un sale traitement, dans l'Église comme en dehors. L'opposition, ça va bien un temps. Jusqu'au jour où on en voit d'autres chrétiens même, suivre une autre approche et s'en trouver mieux pour le moment. Se faire mousser comme le corbeau de la fable. Faire des compromis. C'est très tentant. Faisons bien attention. À nous de discerner dans nos cercles chrétiens comme en dehors les voies qui nous inviteront à placer notre fierté dans la chair, à mettre l'accent sur certains éléments et pas sur d'autres, pour ne pas aliéner nos contemporains. Ces personnes offriront de se porter garant de notre respectabilité et peut-être même de nous cautionner sur LinkedIn. Ils nous inviteront à étaler nos succès et à passer sous silence nos souffrances pour Christ. Le discernement dont je viens de parler, dans nos cercles chrétiens comme en dehors, ça n'est pas facultatif, parce qu'il y a de l'enjeu. À nous de discerner ce qui est essentiel pour rester sur la bonne trajectoire jusqu'au bout et être trouvé en Christ au jour du Seigneur. Jusqu'à présent, on n'a parlé que de ne pas attribuer de valeur à la chair. Mais notre passage va beaucoup plus loin. Ce n'est pas seulement que je me refuserai de placer ma fierté dans la chair. Non, par trois fois, Paul considère ces sujets de fierté comme des pertes, des ordures. Verset 7 et verset 8 à deux reprises. Je considère tout cela comme des ordures. Le choix de mots est repoussant. Et dans le texte original, il s'agit même d'excréments. Je considère tout cela comme des excréments. Qui voudrait s'y frotter ? Non, c'est comme une couche sale et qui déborde. Plus on la tient à distance, mieux on se porte. Et puis remarquez qu'au verset 8, Paul utilise le temps, le présent. Donc Paul entretient jour après jour un mépris de tout sujet de fierté dans la chair. Pourquoi serait-il aussi extrême ? Paul émet un jugement de valeur qui est relatif. Imaginez une riche héritière à bord du Titanic, de sa cabine. Elle entend l'ordre d'abandonner le navire immédiatement. L'équipage la presse à embarquer sur les canots de sauvetage. Sur le comptoir de sa cabine, elle voit d'une part son coffret à bijoux et d'autre part un saladier rempli d'oranges. Elle envisage la nuit qui l'attend sur le canot et elle se saisit de quelques oranges qu'elle met dans son manteau. Autrement dit, elle méprise les bijoux qu'elle laisse derrière elle. Elle n'a pas peur de les perdre. Au verset 8, ce qui justifie le mépris des choses ici-bas chez Paul, c'est la valeur de Christ. Jusqu'ici, Paul se réjouissait d'une justice ici-bas, une vie sous la loi, qui soit agréable à Dieu, si c'était possible. Il a passé une partie de sa vie à se réjouir d'autre chose que Christ. Sauf qu'un jour ou l'autre, Paul allait soit mourir, soit se retrouver face à Jésus-Christ de son vivant. Et il a bien failli ne pas être trouvé en Christ en ce jour-là. Mais parce que Paul a désormais compris ce qui l'attend en Christ, il ne mâche pas ses mots et il n'a pas peur de s'exposer. Mais qu'est-ce qu'il y a de si excellent en Jésus-Christ, justement? Autrement dit, à quelle lumière Paul réévalue-t-il tous ses sujets de fierté dans la chair? C'est là où les versets 8 à 11 nous conduisent. Deuxième point, apprécions à toute sa valeur notre union à Christ. Apprécions à toute sa valeur notre union à Christ. Au verset 8, vous voyez qu'il est question de la connaissance de Jésus-Christ. Puis également au verset 10, je connaîtrai Christ. Je connaîtrai Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Car Paul connaît déjà Jésus comme Sauveur et Seigneur, d'une certaine manière. Alors est-ce que Paul ambitionne de connaître mieux Jésus, au sens où il voudrait en apprendre toujours plus sur Jésus, jour après jour? Je ne suis pas convaincu que ce soit la lecture la plus fidèle. Car la Bible utilise souvent le terme « connaître » dans un sens particulièrement intime, pour décrire une union. Ainsi, au chapitre 4 du livre de la Genèse, on lit « Adam connut Ève, elle conçut un fils ». Union. Alors, voyez le verset 9, Paul veut être trouvé en Christ, c'est-à-dire pleinement et finalement uni à Christ. La doctrine dont Paul s'empare ici, c'est celle de l'union à Christ. Connaître Christ et être trouvé en Christ au jour de la résurrection, c'est pour Paul la même chose. Voyez le verset 10. « Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection. » En perspective pour Paul, la résurrection des morts pour une éternité face à face avec Christ. Cette union future à Christ est fondée sur un verdict de justice. Verset 9, la justice de Jésus-Christ devient notre justice, de telle sorte que Dieu nous voit et nous verra comme innocents. Même si nos péchés sont de couleur cramoisie, Dieu nous voit comme aussi blancs que la neige. Aussi blancs que la neige quand on reçoit la justice de Christ par la foi. Notre union à Christ est effectivement un bien suprême, comme Paul le dit ici. Car est-ce que vous pouvez imaginer quelque chose de plus désirable et de plus excellent que de jouir de ce verdict de justice et finalement connaître Christ au jour de la résurrection? Apprécions à toute sa valeur notre union à Christ. Deux applications. Changement de perspective sur toute chose de la chair d'abord. Changement de perspective sur toute chose de la chair. Pourquoi nous faudrait-il mépriser tout autre sujet de fierté que Christ? Parce que tous ces sujets ne valent rien quand il s'agit d'être déclaré juste et ne vaudront rien quand il s'agit d'être trouvé en Christ. Prenez Kate Middleton, l'épouse du prince William. Maintenant qu'elle est unie à la famille royale britannique, est-ce que vous pensez que son diplôme de St. Andrews pèse lourd? Non, car son union avec le prince William a remis tous ses antécédents en perspective. De façon similaire, notre union à Christ, union future, remet tout en perspective. À tel point que placer sa fierté ailleurs qu'en Christ, c'est se moquer du monde. Est-ce que notre statut respectable en société peut nous donner la résurrection des morts? Est-ce qu'une belle carrière, sans accroc ni coup bas, peut nous donner cette résurrection? Alors, est-ce que vous êtes prêt à réévaluer tous vos sujets de fierté dans la chair à cette lumière-là? Cet examen de conscience, j'imagine que ça nous va assez bien, au fond. Ça se passe dans la tête, et donc ça ne coûte pas grand-chose. Et ça nous va bien aussi parce qu'on s'imagine que puisque cette union est dans le futur, il n'y a pas grand mal à conserver nos ambitions dans la chair ici-bas. Mais si je vous disais plutôt qu'il s'agit de mépriser ces qualités et d'être même prêt à perdre ces qualités. Par exemple, quand votre fierté en Jésus-Christ vous attirera des ennuis. C'est notre deuxième application. Apprécier notre union à Christ, ça change notre perspective sur la vie chrétienne. Toutes les qualités que Paul avait pour lui, il a fini par les perdre. Et il est en prison, d'ailleurs au moment où il écrit, à cause du Christ. Il a perdu la respectabilité qui était la sienne dans le judaïsme et en société en général. L'apôtre Pierre dit la même chose en Marc, Marc 10, verset 28. « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Placer sa fierté en Christ, ça fera que certains de vos amis cesseront de vous traiter comme leur ami. Dans votre réseau, ça vous fermera quelques portes. Qu'à cela ne tienne. Paul estime que cette union future à Christ appelle à une communion dans le présent. La perspective de son union finale avec Christ le conduit à rechercher la communion avec Christ aujourd'hui. Et sans surprise, ça ressemble à un chemin de croix. Verset 10, « Je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. » Autrement dit, Paul nous montre quelles ambitions avoir dans la vie chrétienne sans plus attendre. Un état futur, s'il est déjà déclaré, a toujours un impact sur le présent. Prenez le jeune diplômé qui signe son contrat d'embauche en début d'été, effectif au 1er septembre. Il va dès lors se comporter comme un employé modèle. Il parlera de sa boîte comme s'il en faisait déjà partie. Il se rapprochera d'autres recrues pour établir de la camaraderie. Et il assistera aux quelques soirées de l'entreprise qui seront peut-être organisées pendant l'été si on l'y invite. Autrement dit, dès à présent, il recherchera la communion avec toute chose qui se rapporte à son futur employeur. Un état futur, s'il est déjà déclaré, affecte toujours le présent. J'ai évoqué les afflictions qui entourent souvent le service du Christ. Celles-ci ne sont pas un accident, elles sont typiques de Christ. Souvenez-vous ce verset choquant, chapitre 1, verset 29. Chapitre 1, verset 29, dans notre épître. Il nous a été fait la grâce, non seulement de croire en Jésus, mais aussi de souffrir avec lui. Vous voyez, notre union à Christ n'est pas juste une belle idée pour l'avenir. Il nous est proposé de communier à Christ aujourd'hui. J'ai bien conscience qu'il s'agit d'un état d'esprit extrême. S'apprêter à réévaluer tout ce qui compte pour nous et même tout perdre au passage, à mesure que l'on recherche la communion avec Christ. Mais il n'est pas fou celui qui perd ce qu'il ne peut conserver ici-bas pour servir celui qui nous attend à l'horizon. Si cet état d'esprit n'est pas encore le nôtre, c'est peut-être qu'on n'a pas encore mesuré combien la connaissance de Jésus-Christ est un bien suprême. Alors voilà trois suggestions pour bien disposer nos esprits, si vous le voulez bien. Connaître cet héritage glorieux qui nous attend en Christ. Réévaluer nos qualités de telle sorte que leur pâleur apparaisse. Être fier du chemin de croix que Jésus-Christ a inauguré pour nous. Je répète, connaître cet héritage glorieux qui nous attend encore. Réévaluer toutes nos qualités ici-bas. Être fier de ce que Jésus a inauguré pour nous ici-bas. Vous trouverez quelques questions sur vos feuillets pour stimuler la discussion autour des tables pour le temps qui nous reste ensemble. Mais avant cela, je vous propose de prier. Prions. Père céleste, qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et ici-bas, que désirer car je suis avec toi? Père céleste, permets-nous de regarder à ce que nous attendons de Christ. Que toute chose ici-bas puisse dès à présent pâlir. Que la vanité de nos sujets de fierté puisse être reconnue. Donne-nous du discernement pour formuler de tels jugements de valeur et s'y tenir pour le reste de nos vies. Donne-nous du discernement pour en arriver à désirer la communion avec Jésus-Christ et tout ce que ça implique. Nous prions ça pour la plus grande gloire du Christ. Au nom de Jésus. Amen.